Les cours du Collège de France, État social et mondialisation, analyse juridique des solidarités, Alain Supiot.
Bien, bonjour. Je vais commencer en vous annonçant, alors c'est pas très lisible malheureusement, mais ces affiches vont être... Non, elles sont même totalement illisibles. Bon. C'est l'affiche qui annonce le séminaire en forme de colloque qui aura lieu cette année, donc les 11 et 12 juin prochain, dans cet amphithéâtre. Et l'intitulé de ce colloque, c'est « Prendre la responsabilité au sérieux ». Alors, je vous dis en deux mots l'argument du colloque, pour ceux que ça intéresserait de venir le suivre. La responsabilité est un mécanisme qui implique qu'on puisse avoir un juge à qui on s'adresse pour se plaindre de quelqu'un dont on considère qu'il nous a causé un dommage. Et ces mécanismes ont été conçus et ont fonctionné jusqu'à présent principalement dans les cadres nationaux. Avec la globalisation, elle autorise de plus en plus la possibilité pour un certain nombre d'opérateurs, et notamment d'opérateurs économiques, de prendre des décisions sans avoir à en répondre directement. Nous avions l'année dernière évoqué un de ces cas au travers du drame du Rana Plaza où, avec les nouvelles formes d'organisation de l'entreprise, ceux qui prennent en réalité une grande part des décisions stratégiques en matière économique ne sont pas ceux qui, le jour de la catastrophe, auront directement à répondre des dommages qui auront été causés. Et ce qui autorise un principe général d'irresponsabilité avec cette déconnexion des lieux de détention du pouvoir économique avec les lieux juridiques d'imputation de la responsabilité. Alors ce problème se pose en matière sociale, mais il se pose plus généralement dans les trois domaines que j'ai déjà eu l'occasion de mentionner à plusieurs reprises dans ce cours, identifiés par Karl Polanyi, ce qu'il appelle les marchandises fictives, c'est-à-dire ces trois choses que en régime capitaliste on va traiter comme des marchandises alors que ce ne sont pas des marchandises, qui sont le travail, enfin l'humain, la nature et la monnaie. Et sur ces trois sujets, la question se pose: comment on peut réactiver les mécanismes de responsabilité pour les dommages causés dans matière, disons, sociale, environnementale et monétaire et financière. Donc le colloque croisera ces deux approches. Il y aura une première session qui visera à, d'abord, avec les précautions que vous savez qui sont employées dans ce cours et dans ce que j'essaie de faire, de ne jamais prendre nos catégories de pensée pour universelles. Donc on va commencer par se demander comment on traduit responsabilité dans d'autres systèmes, quelles sont les notions dans d'autres systèmes de pensée qui sont les traductions, les équivalents de la notion de responsabilité. Et on passera en revue à la fois la dimension linguistique et puis le cas de l'Inde ancienne. Moi-même, je n'arrive pas à lire la Chine impériale, l'Afrique, et puis le cas européen, en essayant de prendre une vue un peu comparative des traditions de common law et de droit continental. Ça sera la première session. La deuxième session portera donc sur les questions de responsabilité dans ces trois domaines que je viens de mentionner, les questions de responsabilité environnementale, sociale et enfin financière. La troisième session consistera à se demander comment on relève les défis du droit de la responsabilité autour des trois questions par lesquelles j'ai commencé. Comment identifier les responsables? Les questions se posent notamment en matière de réseau d'entreprise et ça pose quand on n'en identifie pas, celui qui est toujours responsable en dernier ressort, c'est l'État. C'est lui qui paye la note quand il n'y a plus personne d'autre. Bon. Donc première question, identifier les responsables. La deuxième, c'est qui peut déclencher l'action en responsabilité? Ça pose des problèmes considérables, par exemple en matière environnementale, parce que qui est autorisé à parler au nom des dommages infligés en matière environnementale? Et enfin, qui juge, devant quel juge s'adresser dans un monde, dans l'ordre juridique international aujourd'hui? Si on prend la question sociale, on en parle en ce moment à propos de l'OIT, elle n'a pas de tribunal. En matière d'environnement, il n'y a pas de tribunal non plus. Donc il y a la question d'identification du juge, la demande qui est faite à certains juges nationaux de juger en dehors de leurs frontières. On aura même dans ce contexte un petit entretien que j'ai réalisé cette semaine avec Justice Breyer, qui est un des membres de la Cour suprême des États-Unis, qui a dû être confronté à ce problème où des gens du monde entier venaient devant la Cour suprême pour essayer d'obtenir justice. Et puis la quatrième session, elle sera un peu plus prospective, avec deux tables rondes, l'une présidée par Mireille Delmas-Marty et l'autre par moi-même, en vue d'identifier quelques remèdes en matière de remèdes à l'irresponsabilité en matière d'environnement, plus spécifiquement dans une première table ronde, puisque ce colloque sera en principe labellisé comme une manifestation scientifique préparatoire de la conférence climat qui se tient à Paris en décembre prochain, et puis en termes plus généraux dans la deuxième table ronde. Voilà à peu près la structure de ces deux journées, donc vous y serez, ceux que ça intéresse, les bienvenus, naturellement, donc les 11 et 12, sans qu'il y ait besoin d'inscription particulière. L'affiche à jour va être mise sur le site du Collège de France à disposition au plus tard la semaine prochaine. Donc vous pourrez lire ce qui là est encore dans un brouillard intrigant. Le dernier cours de l'année, c'est toujours une course de vitesse parce qu'on s'aperçoit qu'on a beaucoup de choses à dire et qu'on n'aura pas le temps de les dire. Là, je me sens un peu moins pressé puisque nous continuerons sur le même sujet l'année prochaine, un cours qui devrait commencer en principe la dernière semaine d'octobre. Et enfin, les emplois du temps ne sont pas tout à fait fixés, mais ça risque d'être plutôt le mercredi matin que le jeudi pour des raisons de disponibilité de salle à partir de la fin octobre. On pourra continuer. Là, j'en étais, vous en souvenez, à décrire la crise qui affecte l'Organisation internationale du travail et son système de supervision, et on était à la question de savoir quelles seraient les chances en cas d'un contentieux devant la Cour internationale de justice, de la Haye, de faire reconnaître ou au contraire de ne pas faire reconnaître l'existence d'un droit de grève déduit de la Convention relative à la liberté syndicale. Autrement dit, est-ce que l'interprétation qui a été faite par le comité d'experts qui dit que la reconnaissance de la liberté syndicale et du droit reconnu par la Convention de définir elle-même les modalités d'action et ses programmes d'action implique la possibilité de recourir à la grève, ce contre quoi proteste depuis peu de temps le groupe des employeurs. Donc j'ai fait valoir qu'une première raison qui rendait le recours à la Cour internationale se présentait sous un jour peu propice pour le groupe des employeurs, c'est que jusqu'à présent, cette Cour a fait la preuve et a affirmé qu'elle prenait le plus grand compte, la plus grande considération, c'est l'expression que nous avions vue, pour les interprétations déjà faites dans les organes dont se sont dotés les organes internationaux spécialisés. Une seconde raison pour laquelle on peut penser que la Cour internationale admettrait cette reconnaissance du droit de grève, c'est que ce droit a été consacré par de très nombreux instruments régionaux, internationaux et régionaux, enfin ou continentaux si vous voulez, qui le reconnaissent. Alors vous en avez la liste ici sur l'écran, vous voyez que c'est beaucoup de textes, et parmi eux des textes à valeur universelle en principe, comme le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, mais aussi des textes continentaux comme la Convention européenne des droits de l'homme ou la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Et c'est sans doute parce qu'ils étaient conscients de la fragilité de leur position que les représentants des employeurs à l'OIT ont refusé de s'engager dans la voie d'un recours devant la Cour internationale de justice. Et dès lors, la situation est encore plus bloquée puisqu'on a divergence sur l'interprétation d'une convention la Convention 87, et on a refus d'aller devant un juge, soit en créant le tribunal prévu par la Constitution de l'OIT, qui n'a jamais été créé, soit en allant devant la Cour de justice. Donc, comment sortir de cette, impasse ? Pour essayer de tenter de sortir de ce bras de fer, il y a eu des missions de bons offices, menées notamment par le nouveau directeur général. Mais alors, il se trouve que le nouveau directeur général, qui a fait l'honneur de venir au colloque que j'ai organisé ici au mois de. Que l'OIT a organisé ici en janvier, est issu des rangs des syndicalistes. Donc il n'est pas lui-même dans une position de tiers qui lui permettrait de s'imposer. Donc il y a un problème un peu politique, interne à l'organisation. Et le point, si ce point est si sensible, c'est que les deux conventions incriminées, c'est-à-dire la 87 sur la liberté syndicale et la 98 sur la négociation collective, font partie de la liste, nous les avons vues, des 8 conventions dites fondamentales. Vous vous rappelez sans doute ce point que, dans le cours de, depuis une vingtaine d'années, l'OIT a identifié une très courte liste de conventions dites fondamentales qui sont liées à sa déclaration de 1998. Or, ces deux conventions en font partie, et donc elles ont été ratifiées par un très grand nombre de pays. Donc là, il y a un effet normatif important de l'interprétation qu'il aurait donnée. Et donc, ce point étant très sensible, l'organisation patronale a maintenu sa position lors des dernières sessions, notamment dans un long communiqué qu'elle a publié en septembre 2014, que vous avez sous les yeux, où l'organisation patronale commence par dire que le droit de grève n'est pas prévu littéralement dans le texte de la Convention 87, que justifie les demandes des employeurs qui ont constamment essayé de rappeler au comité d'experts que le droit de grève n'était pas présent dans cette convention. Jusqu'ici, ces demandes ont été ignorées à la complète dissatisfaction des membres de l'employeur et qu'en outre, en dépit de cette opposition du groupe des employeurs, le comité d'experts a persisté à trouver dans la lecture de la convention la reconnaissance du droit de grève comme un droit fondamental. Et donc, vous voyez, c'est extrêmement violent ce texte contre le comité d'experts, puisque ça se conclut en disant qu'il a créé une confusion entre les obligations qui procèdent d'une convention ratifiée la reconnaissance d'un droit de grève qui ne peut être instauré qu'au plan national. Alors, la commission de l'application des conventions fonctionnant selon la règle du consensus tripartite, elle a donc cessé depuis 3 ans d'inscrire à son ordre du jour les avis du comité d'experts relatifs à ces conventions fondamentales et qui ne sont donc plus soumis à la conférence. Alors, pour sortir de cette impasse, à l'automne dernier, a été décidé de constituer un groupe tripartite qui était chargé de faire des propositions lors de la réunion suivante du conseil d'administration, c'est-à-dire le mois dernier. En fait, les dernières informations que j'ai eues pour ce cours datent d'hier soir, donc c'est pour vous dire que la question est loin d'être résolue. Alors, cette commission tripartite a élaboré deux déclarations sont sorties du travail de cette commission. Une première déclaration, c'est une déclaration commune des employeurs et des travailleurs. Alors on s'attend à ce que ça débloque puisque c'est eux qui sont en opposition. Mais quand on la lit, c'est ça ce qui est merveilleux dans les organisations internationales, c'est qu'il n'y a pas un mot sur le droit de grève. Donc ils se sont mis d'accord sur un texte où le mot droit de grève n'apparaît pas. Alors ce document reconnaît le droit de mener des actions collectives, donc le mot grève n'est pas employé, et il conforte l'idée de la légitimité du comité d'experts dans son principe, mais il appelle à une amélioration des procédures qui devraient permettre d'arriver à une clarification sur le point en litige. Donc vous voyez, c'est vraiment une, je ne veux pas dire une bouillie, ce ne serait pas très respectueux, mais enfin on ne voit pas du tout ce que ça veut dire en réalité. Bon, ça veut dire on est plein de bonne volonté, mais on ne sait pas nous-mêmes comment en sortir. Alors, ça, c'est la déclaration des partenaires sociaux. Les États se sont montrés plus clairs, pour une fois, parce qu'en général, les représentants des États, bien qu'ils aient la moitié des sièges à la Conférence internationale du travail, ne jouent pas un rôle très dynamique dans la vie de l'organisation. Mais là, dans cette situation, ils ont été placés, en fait, en première ligne. Et donc, leur déclaration reconnaît que le droit de grève est lié à la liberté syndicale. Donc il y a une position commune des États disant « le droit de grève est lié à la liberté syndicale, qui est un principe fondamental et un droit opposable par les salariés, en sorte que sa protection est nécessaire pour la protection et la promotion des droits des travailleurs ». Donc ça, c'est une position commune qui a été déclinée d'ailleurs dans des sous-organisations continentales des États. Alors, pour ne toutefois ménager la chèvre et le chou, cette déclaration des États membres note que le droit de grève n'est cependant pas un droit absolu et que son étendue et ses conditions d'exercice sont régies par des dispositions nationales. Et les États se déclarent prêts à prendre part à une discussion sur l'exercice du droit de grève au sein de la conférence internationale qui tiendrait compte de la jurisprudence du comité d'experts. Donc on peut dire que cette déclaration, elle, va plutôt dans le sens d'un soutien au comité d'experts et à son interprétation de la Convention. Donc, lors de la réunion du Conseil d'administration qui s'est tenue donc, il y a 15 jours à Genève, le Conseil d'administration de l'OIT a pris connaissance des résultats de cette commission tripartite et on s'attendait à ce qu'il ils finissent par trancher, enfin, qu'on en sorte quelque chose. Mais ils ont réussi à nouveau à ne pas trancher. D'abord, on a du mal à trouver le document sur le site de l'OIT. Et la décision qui a été prise, c'est de ne pas saisir la Cour internationale de justice. Ça, c'est la seule décision claire qui ressort de cette délibération du Conseil d'administration. Pour le reste, ce conseil appelle les parties concernées à remettre en marche la commission de l'application des normes en juin, en disant qu'il faut sortir du blocage. Mais ça, tout le monde le dit depuis maintenant plusieurs années. Le seul élément qui semble être la voie esquissée par le conseil d'administration, c'est la création d'un nouveau groupe tripartite qui serait susceptible de faire des propositions pour la suite. Ce qui, bien que ce ne soit pas écrit explicitement dans le texte, suppose des propositions en vue de l'étude par la conférence d'un instrument normatif, donc d'une convention, sur le droit d'action collective. En fait, la manière de sortir ça serait d'arriver à se mettre d'accord en disant, bon, puisque tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un droit d'action collective des syndicats, essayons d'élaborer une convention internationale qui parlerait de droit d'action collective et éventuellement de la grève. Voilà où on en est, et donc il est trop tôt pour savoir si cette crise va se dénouer et comment. Alors, si je me suis longuement attardé là-dessus, c'est en raison de son importance cruciale pour notre sujet, qui est la justice sociale internationale, puisque la justice est à la fois un principe métajuridique, c'est comme ça que nous l'avons étudié, à la lumière duquel on interprète les dispositions du droit positif, mais c'est aussi des institutions qui sont chargées de cette interprétation. Et là, on a affaire au noyau atomique du système juridique. Il faut une instance tierce qui a autorité pour dire le droit, pour lui attribuer un sens qui s'impose aux parties en litige. C'est à voir avec la notion de vérité légale, sur laquelle je dirai peut-être un mot à la fin si j'ai le temps. Donc on ne peut se satisfaire de ce point de vue, de la position du groupe des employeurs qui dit, au fond, nous sommes à la fois c'est nous qui rédigeons les normes et c'est nous qui allons les interpréter en cas de conflit d'interprétation. Ça ne peut pas marcher comme ça. Il faut toujours qu'il y ait un tiers ayant autorité pour interpréter les textes. Depuis la création de l'OIT, ce tiers, on peut dire que ça a été la commission d'experts qui a joué ce rôle, le tiers impartial. Mais ce n'est pas sans raison que le groupe des employeurs fait remarquer que conteste cette fonction, car cette commission, en dépit de la qualité de ses membres et de la rigueur de ses procédures, n'est pas une juridiction. Elle n'est pas soumise au principe du contradictoire et ses avis n'ont pas l'autorité de la chose jugée. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ce que c'est que l'autorité de la chose jugée ? C'est ce rapport justement très particulier du droit avec la vérité, c'est qu'il y a un moment où on va faire comme si. C'est pro veritate judicatur, on dit. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on va faire comme si la vérité, c'est ça. On va prendre pour vrai, on va tenir pour vrai l'énoncé qui a été celui donné par le juge. Bon, c'est ça la fonction première du juge, de fixer une certaine vérité dont on ne prétend pas que c'est la vérité vraie. On pourrait dire que les questions de la vérité, il faut laisser ça aux prêtres et à la philosophie analytique, si je puis me permettre. Mais en tant que juriste. En revanche, il y a des choses qu'on peut tenir pour vraies à un certain moment, et c'est le rôle des juges de dire ce que c'est. Donc, le groupe des employeurs a de bonnes raisons de dénier ce pouvoir d'interprétation. Mais ce n'est pas sans hypocrisie, puisque, je viens de vous le dire, cet argument est employé non pas pour aller devant un véritable juge, mais pour bloquer complètement le système, qu'aucun juge ne puisse se prononcer. Et dès lors, l'interprétation, dire que l'interprétation des conventions internationales doit relever du seul pouvoir de ceux qui les ont adoptées, c'est clairement contraire aux dispositions de la Constitution de l'OIT. C'est clairement contraire aussi au principe de séparation des pouvoirs entre un pouvoir législatif, qui est celui de la Conférence internationale, et un pouvoir judiciaire. Et donc, avec cette crise et à quelques années de son centenaire, l'OIT se trouve face à une croisée des chemins, donc ou bien elle va en sortir par le haut en se dotant d'un dispositif qui sera de type juridictionnel, qui occupera la place demeurée vacante de juge social international. Bon, on peut encore imaginer que ce soit possible, ça devient de moins en moins probable à mon avis. Ou bien elle en sort par le bas, en livrant l'interprétation du droit international du travail à des arrangements négociés qui pourront fluctuer au gré des rapports de force entre ces différentes composantes de l'organisation. On peut dire que si on sort du petit monde, parce que de l'OIT, bien qu'il y ait beaucoup de fonctionnaires là-dedans, et de gens, mais ça reste un petit monde, un peu coupé du monde, même sur les hauteurs du lac Léman, du point de vue même de l'intérêt des entreprises, l'intérêt, ça serait la sécurité juridique. Donc on peut dire que, au regard même des entreprises multinationales, elles auraient intérêt à ce que ça soit fixé clairement. Mais on ne peut se cacher que la disqualification du droit international du travail en un droit mou, dont le sens et la portée varieraient en fonction des calculs d'intérêt, cette évolution va dans le sens général du renversement du règne de la loi, tel que nous avons pu l'analyser dans les cours des deux années précédentes. Donc, j'en ai terminé ici avec le développement, qui était le deuxième de ce chapitre, consacré à l'OIT, à ce chapitre sur l'histoire de la construction de la notion de justice sociale depuis la fin du XIXe siècle. Je l'ai fait parce que ça a été la première, chronologiquement, que ça demeure la plus importante des organisations. Mais vous voyez, on bute sur cette absence d'un juge, d'un tiers impartial dans les relations internationales du travail. J'en viens maintenant à un troisième, après avoir étudié les prémices, puis l'OIT, un troisième volet, sur les institutions nées de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est un troisième mot. Depuis la Seconde Guerre mondiale, l'OIT n'est plus la seule en charge de la mise en œuvre de la justice sociale, et cette mise en œuvre concerne aussi trois autres types d'organisations. Premier type, des organisations mondiales qui ont une mission sociale, soit générale, soit spécialisée. Nous allons commencer par elles. Deuxièmement, des institutions, je préfère appeler continentales plutôt que régionales, parce que la notion de régionale renvoie quand même chez nous à des choses plus locales, des institutions continentales, par exemple les institutions européennes ou africaines ou interaméricaines, qui ont une vocation sociale. Et en troisième lieu, troisième type d'institution, les institutions économiques et financières internationales ou continentales qui ont une incidence sur la réalisation des droits sociaux. Vous voyez, c'est les trois volets qu'on va étudier. D'abord, les institutions à vocation mondiale et universelle ayant une mission sociale. Deuxièmement, les institutions continentales ayant une mission sociale. Et puis, troisièmement, les institutions internationales, qu'elles soient mondiales ou continentales, qui ont une mission en réalité commerciale ou financière, mais dont les choix stratégiques et le pouvoir dessinent une certaine vision des rapports sociaux. Alors c'est très important évidemment de garder ces institutions en tête, parce que si on ne voit la situation grecque, parce que c'est par là qu'on a commencé le cours, qu'au travers de la Charte européenne des droits sociaux, de la Charte de sauvegarde des droits fondamentaux, on oublie le rôle très important qu'a le FMI et la Commission européenne dans la définition de la mise en œuvre de ces droits sociaux. Donc c'est l'autre face du miroir, si je puis dire, et c'est à cela que ça correspond une partie des cours de l'année prochaine. Donc, aujourd'hui, je commence par l'étude des organisations mondiales qui ont été chargées au lendemain de la mise en œuvre de certains droits sociaux. Il s'agit principalement des Nations Unies, de l'OMS et de l'UNESCO. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et l'UNESCO, donc, qui est chargée des droits culturels. Donc, je vais commencer par la mission sociale de l'Organisation des Nations Unies en tant que telle. Cette mission sociale des Nations Unies procède de deux sources. D'une part, les dispositions économiques et sociales de sa charte constitutive, et d'autre part, elle procède de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui consacre un certain nombre de droits économiques, sociaux et culturels, que dans la suite j'appellerai les droits sociaux au sens large, mais il faut entendre toujours droits économiques, sociaux et culturels. Alors, la charte, les dispositions qui intéressent la justice sociale se trouvent d'abord dans le préambule de la charte que vous avez sous les yeux, qui commence cette formule « Nous, peuple des Nations Unies », ça doit avoir tout de suite pour vous un écho, c'est la formule qui ouvre la Constitution américaine. Donc, l'influence des États-Unis dans la rédaction du document est immédiatement visible. Vous noterez que dans ce préambule, la première chose, c'est la référence à l'expérience de la guerre. Là, on est tout à fait dans la ligne que j'ai évoquée en vous exposant un peu les vues de Giambattista Vico sur les Corsi et Ricorsi. Nous sommes au moment de l'adoption de la charte à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce qui fonde la nécessité de se doter d'un certain nombre de droits sociaux? C'est l'expérience qui, en deux fois dans l'espace d'une vie humaine, a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances. Donc, il ne s'agit pas, j'insiste souvent là-dessus, mais parce que ça me paraît important, les questions de justice sociale ne relèvent pas ça relève d'un bon cœur, de vouloir être gentil, etc., d'une sorte d'idéalisme. Les moments cruciaux dans l'histoire juridique en ce domaine sont liés à ce type d'expérience. C'est-à-dire, ça procède en réalité d'un certain réalisme, c'est-à-dire du constat des catastrophes. Donc, à partir du constat des catastrophes, on se dit on va faire quelque chose. Donc ça, on commence par là. La deuxième chose que vous remarquerez dans ce préambule qui est très frappant, c'est la référence à la foi. On proclame notre foi dans les droits fondamentaux. Donc, c'est la nature dogmatique de l'affirmation de la dignité et des droits fondamentaux. Il ne s'agit pas, ce qui, en point de butée de l'ordre juridique international, ce qu'on va trouver, ce n'est pas une démonstration scientifique, ce n'est pas une vérité scientifique, c'est une affirmation. Et c'est une affirmation qui relève d'une foi qui n'est pas religieuse, mais qui est ce que, dans ces derniers textes, Pierre Legendre appelle le fiduciaire, c'est-à-dire il faut qu'il y ait quelque chose, une confiance sur laquelle soit soudé un ordre juridique à un moment donné. Et puis vous noterez la référence combinée aux idées de justice internationale et de progrès social, qui est entendue ici comme condition de l'extension de la liberté. Donc ça, c'est le premier moment dans la charte où les droits sociaux sont mentionnés, dans le préambule. Ils sont également mentionnés au chapitre 9, qui concerne la coopération économique et sociale, et au chapitre 10, qui institue le Conseil économique et social. Et l'article à retenir ici est l'article 55 de la charte. Donc, qui annonce que pour créer les conditions de stabilité et de bien-être nécessaires pour assurer entre les nations des relations pacifiques, les Nations Unies favoriseront, et ensuite, trois items sociaux, le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi, la solution des problèmes internationaux dans les domaines économiques, sociaux, de la santé publique et autres problèmes connexes, et le respect universel et effectif des droits de l'homme et libertés fondamentales. Ça, c'est le lien avec la Déclaration universelle dont nous allons parler après. Là encore, dans mon commentaire de cet article 55, je vous fais observer trois choses particulièrement. La première, c'est la référence à la stabilité. Ça commence par là, en vue de créer les conditions de stabilité. Nous sommes ici encore dans la conception classique d'un ordre juridique stable. On avait fait l'exégèse du mot « état » établi à partir de « status » l'année dernière, en examinant la distinction du droit privé et du droit public. C'est ce qui est établi, c'est-à-dire ce sur quoi on peut s'appuyer. Bon. Et cette conception classique d'un ordre juridique stable comme condition d'un régime pacifique est évidemment tout à fait différente, tout à fait contraire de ce qui est promu aujourd'hui au travers de, par exemple, je l'ai cité il y a deux semaines, je crois, la référence de M. Cameron au global race, c'est-à-dire à la course mortelle, c'est-à-dire ou bien vous envisagez l'ordre international comme un certain nombre de règles stables à partir desquelles chacun va pouvoir agir librement, ou bien vous l'envisagez comme un lieu de compétition, comme une course, donc il y a les règles de la course éventuellement, mais c'est une course où il faut, selon la formule employée par le Premier ministre britannique, nager ou couler. Bon, c'est-à-dire, donc c'est une façon différente d'envisager l'ordre international, bien entendu. Est-ce que je cherche des institutions qui font un cadre stable ou est-ce que j'envisage cet ordre comme un ordre de compétition généralisé? Bon. Dans l'article 55, l'argument de la stabilité. Alors, ça peut avoir des conséquences, évidemment, économiques importantes sur lesquelles je reviendrai l'année prochaine en termes de... Ça peut être la stabilité des cours internationaux des matières premières, par exemple, pour les pays du Sud. Ça a signifié ça jusqu'à un certain moment, la stabilité, pour avoir un horizon temporel qui permette de vous projeter dans l'avenir. Cette référence apparaît désuète par rapport aux pratiques et aux interprétations contemporaines. On peut noter aussi, enfin c'est plus anecdotique, l'apparition de la notion de développement, dans, à mon sens c'est un des premiers textes où ça apparaît, à côté de celle qui était la notion traditionnelle de progrès. On a pensé en termes de progrès depuis les Lumières, et puis depuis la fin de la guerre, on voit apparaître la notion de développement, qui est devenue aujourd'hui développement durable, ce qui est un oxymore, hein, c'est comme l'Académie des sciences morales et politiques, si je puis me permettre. On a des contradictions dans les termes pour essayer de résoudre en fait des questions difficiles. Hein. Et puis, en troisième lieu, la reprise dans la liste des ABC, c'est la reprise des objectifs économiques et sociaux qui avaient déjà été visés l'année précédente, en mai 1944, dans la déclaration de Philadelphie. Enfin, je me fais un devoir de ne jamais revenir longuement sur la déclaration de Philadelphie pour ne pas vous paraître un obsédé de cette déclaration. Enfin, elle est quand même importante, c'est elle la première. Bon. Alors, voilà pour la charte. Concernant maintenant la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, je présume que vous connaissez plus ou moins ce texte, et je vous rappelle simplement donc la grande nouveauté de cette déclaration, c'est de comporter une liste d'articles qui consacrent les droits dits économiques, sociaux et culturels que vous trouverez sous le sigle abscon de DESC, quelquefois, dans les ouvrages spécialisés, donc que j'ai dit qu'on allait appeler droits sociaux. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a la dimension de la référence à la culture, et donc à l'éducation, et donc au respect de la diversité des cultures qui se trouve consacrée par la charte. Donc vous y retrouvez ces droits classiques qui vont être déclinés ou qui ont déjà été, au moment de l'adoption de la déclaration, déclinés dans des documents constitutionnels tels que, par exemple, en France, le préambule de la Constitution de 1946. On est dans un bain historique. Hein, l'affirmation de ces droits est typique de cette période de la fin de la guerre. Il faut ajouter à cette liste l'article 28, au terme duquel toute personne a droit. Il est très intéressant, il est peu commenté cet article. Toute personne a droit à ce que règne sur le plan social et sur le plan international un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente déclaration puissent y trouver plein effet. Alors, on peut voir dans cette déclaration une sorte d'hubris du droit individuel. C'est ma position sur laquelle on aura peut-être l'occasion de revenir, mais donc la grande faiblesse de ces documents est de ne raisonner qu'en termes de droits individuels. Seulement, il faut tout de même souligner l'intérêt de la formule, c'est-à-dire il y a besoin d'un ordre tel que les droits et libertés dans la présente déclaration puissent trouver plein effet. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que pour que les droits individuels puissent prospérer, être respectés, ça suppose un cadre normatif collectif. Bon. C'est comme ça que, dans les traditions de common law, on retrouve la notion de droit avec un D majuscule. Ce qui est appelé ici un ordre tel que les droits et libertés énoncés, c'est ce qu'on appellerait un droit international qui soit conçu en sorte que puissent être respectés et s'exercer les droits mentionnés. Là encore, on peut lire cette disposition à la lumière de la déclaration de Philadelphie qui dit il faut évaluer l'organisation économique et financière du monde, les règles commerciales et financières, à la mesure des effets qu'elles ont en termes sociaux. C'est-à-dire, elles sont bonnes si elles permettent la promotion des droits sociaux, et sinon, il faut les revoir. Donc on est là encore dans une unité d'inspiration par rapport à ce texte de 44. L'indivisibilité des droits ainsi déclarés, c'est-à-dire d'une part les droits traditionnels qui sont dans le début de la déclaration civile politique et puis d'autre part ces droits sociaux, procède de l'article 30 et dernier de la déclaration, au terme duquel aucune disposition de la présente déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés. C'est un point, cet article est capital en réalité pour l'interprétation de l'ensemble de la déclaration, cette notion d'indivisibilité des droits. Donc on ne peut pas, ça veut dire par exemple, on ne peut pas mettre en avant la notion de droit de propriété pour mettre en péril le respect d'un minimum de sécurité économique des personnes. Et inversement, on ne peut pas, au nom de la défense de ces droits sociaux, dénier ou réduire à rien les libertés civiles et politiques. L'idée, c'est que ça faisait un tout. Ça, c'était très important, et c'est de cette conviction de l'unité des droits qui va être renversée très rapidement. Dès les premiers commentaires des juristes français, on y reviendra peut-être, de Rivero, Vedel, de la déclaration de 48, on va s'employer à dire non, il y a deux sortes de droits différents, c'est des problèmes différents, ça n'a rien à voir. Bon, c'est une question sur laquelle je vais revenir tout à l'heure. Alors, comme vous le savez, cette indivisibilité donc proclamée a été rapidement trahie des deux côtés du rideau de fer. Elle a été trahie du côté communiste, puisque la conception instrumentale du droit, c'est-à-dire du rule by law et non pas du rule of law, faisait que les droits n'étaient en toute hypothèse invocables que dans la mesure où ils sont conformes à ce que la Constitution de la Chine nomme encore l'ordre économique de la société. Donc vous pouvez invoquer des droits, mais à condition que ça soit conforme à la vision que les dirigeants ont de l'ordre économique de la société. Bon. Donc ce sont des droits qui ont un statut un peu particulier. Et on sait ce qu'il en fut du droit de grève, par exemple, ou de la liberté syndicale dans ce type de régime, et ce qu'il continue d'en être en régime dit d'économie socialiste de marché, autre notion de la Constitution chinoise. En terre capitaliste, donc, beaucoup, y compris parmi les juristes contemporains, n'admettront jamais la réelle juridicité des droits économiques et sociaux. Alors, c'est clair chez des auteurs comme Hayek, avec sa dénonciation du mirage de la justice sociale, qui fait une partie des lectures obligatoires pour ce cours, c'est un ouvrage de référence. Mais on trouve en réalité les mêmes vues exposées sous une forme adoucie dans la plupart des savants traités qui sont consacrés aux droits de l'homme. Si vous prenez par exemple l'excellent, j'en fais la promotion, traité qui s'intitule « Droit européen et international des droits de l'homme », qui est un ouvrage de référence de M. Frédéric Sudre, qui en est à sa 12e ou 13e édition aux éditions Presse universitaire de France, la collection Thémis, eh bien, ce traité reprend une opinion émise en leur temps par Rivero et Vedel, et selon laquelle cette déclaration universelle des droits de l'homme serait le résultat, je cite, d'un compromis entre la tradition libérale et le marxisme. Donc, il y aurait la couche libérale, droit civil et politique, puis la couche marxiste. Bon. Alors, Donc, selon ce courant, les droits économiques ne seraient que des créances sur l'État dont ils encourageraient l'intervention, alors que les droits civils et politiques seraient au contraire des droits de protection contre les empiétements de l'État sur les libertés individuelles. Il y aurait donc une... C'est devenu un mantra doctrinal. Donc il me semble important de démanteler ce mantra qui s'est installé dès les années 50. Et c'est ce que je vais essayer de faire dans le temps qui me reste. D'abord en disant que il est doublement inexact. Il est inexact que l'invention des droits sociaux soit imputable au marxisme. Ça n'a rien à voir. Et deuxièmement, il est inexact de dire que l'État est le débiteur nécessaire et suffisant des droits sociaux. C'est la deuxième inexactitude dans cette conception des droits sociaux. Bon, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire les deux, mais on va commencer par le premier. Premièrement, appliquer tout d'abord le qualificatif de marxiste aux droits économiques et sociaux témoigne non seulement d'une incompréhension du marxisme qui visait le dépérissement du droit et de l'État, mais aussi d'une étonnante ignorance de la genèse historique des droits sociaux. Ceux-ci ont commencé d'être affirmés, nous l'avons vu, dès 1919, dans la constitution de l'OIT, et cette constitution, l'URSS, l'Union soviétique, n'y avait pas adhéré, elle n'y a adhéré qu'en 1934, et pour en être exclue dès 1939, en raison de son invasion de la Finlande. Donc, il faut beaucoup d'imagination pour voir dans les documents de la fondateur de l'OIT une influence marxiste. Et la reformulation à laquelle ces droits ont donné lieu à la fin de la Seconde Guerre mondiale n'a pas davantage répondu à une quelconque inspiration marxiste, mais bien plutôt à l'orientation politique que le président Franklin Roosevelt a imposée aux États-Unis suite à la crise de 1929. Comme vous le savez, cette crise a d'abord donné lieu à des politiques déflationnistes du type de celle qui a été conduite par exemple en France par le gouvernement Laval en 1935-1936 et qui, à l'instar des politiques monétaires actuelles, entendait comprimer les dépenses publiques pour rétablir les équilibres économiques. Et Roosevelt a été élu au contraire en 1932, puis réélu en 1937 sur la promesse de ce qu'on a appelé, en traduit en français, une nouvelle donne, le New Deal, qui, s'opposant, je cite Roosevelt, aux financiers, aux banquiers et aux spéculateurs imprudents, fin de citation, pourrait promouvoir un état de bien-être, donc ça c'est la notion welfare state américaine, pour l'ensemble de la population. Et l'une des notions clés de ce welfare state est une notion sur laquelle je vais revenir, c'est celle de freedom from want. Freedom from want, c'est la libération du besoin, et c'est une notion qu'il faut entendre dans son double sens social, c'est la libération du besoin, ça veut dire être libéré de la pauvreté et de la misère, et dans son sens économique, libérer le besoin, c'est promouvoir la demande sur les marchés pour faire repartir la machine dans un sens keynésien. Vous voyez, cette notion de freedom from want avait ce double sens dans l'esprit de Roosevelt, même si ses entretiens avec Keynes ne se sont pas très bien passés, paraît-il. Alors, cette liberté nouvelle a été présentée par Roosevelt comme l'un des quatre piliers d'un nouvel ordre juridique à vocation universelle, dans un discours qui est demeuré fameux, qu'il a prononcé le 1er juin 1941. Et ce discours visait aussi à préparer l'entrée des États-Unis dans la guerre. Et c'est pourquoi Roosevelt propose une sorte de deal historique aux citoyens américains. Et les termes de ce deal sont les suivants. Vous allez devoir consentir d'importants sacrifices pour la défense de la démocratie contre les dictatures, mais ce sacrifice porte en lui la promesse de droits sociaux dont la réalisation, sans la réalisation desquels la démocratie perd sa force et sa vitalité et votre combat son sens. Son discours commence de la façon suivante. Hop. Alors, est-ce que j'ai traduit ? Non, je n'ai pas fait la traduction, je suis désolé. Bon, l'idée ici, c'est que les hommes, donc, ne vivent pas seulement de pain. Ils ne combattent pas seulement avec des armes. Il leur faut avoir la stamina, ça veut dire la puissance, la force intérieure et le courage pour avoir... On retrouve la notion de foi, une foi inébranlable dans un certain mode de vie qu'ils vont défendre. Donc, en fait, il faut une foi dans la démocratie enracinée pour pouvoir mener ce combat. Et c'est l'action puissante à laquelle vous allez être appelé, c'est-à-dire la guerre mondiale, ne peut pas être fondée sur un mépris des choses qui valent la peine d'être défendues. Donc il faut avoir en tête ce pourquoi on se bat. Et c'est là que il donne une liste de droits qui va inspirer ensuite les déclarations qu'on va retrouver dans la déclaration de 48, l'égalité, l'emploi, la sécurité, la fin des privilèges pour quelques-uns, la préservation des libertés civiles, l'augmentation des niveaux de vie. Et, dit-il, la force de notre système économique dépend de sa capacité à satisfaire ces différents droits. Donc vous noterez dans ce début de ce discours à la fois la référence à la foi dans les institutions que donne la force intérieure, qui donne la force intérieure de la défendre, stamina, et d'autre part l'accent mis sur la sécurité économique et la lutte contre les injustices. Roosevelt était engagé depuis plusieurs années dans un bras de fer avec ce qu'il appelait les puissances d'argent. Bon, c'est notamment avec cette loi qui a distingué les banques de détail avec les banques d'investissement, et loi qui a été abolie simplement au début de la dérégulation financière à la fin du XXe siècle. Donc, je souligne ici le lien structurel qui est établi par Roosevelt entre la démocratie et la justice sociale. Ce point aussi est important, parce que la justice sociale n'est pas une concession que ferait la démocratie aux thèses marxistes, mais bien au contraire, c'est une condition de sa survie face au régime totalitaire. C'est comme ça qu'elle est comprise à l'époque par Roosevelt. Et cette affirmation est liée à une autre. Les hommes dans le besoin ne sont pas véritablement des hommes libres. Or, la démocratie ne peut prospérer qu'avec des hommes libres. Et seuls des hommes libres y seront suffisamment attachés pour être prêts à la défendre, le cas échéant, au péril de leur vie. Donc la justice sociale n'est pas un supplément, un luxe que la démocratie pourrait s'offrir en période de vache grasse, elle est une condition de son existence même. Ça c'est la conception de Roosevelt. Vous voyez pourquoi ? Parce que si on a un peuple de gens dans la misère, ils sont prêts à tout. Là, il y a un petit accent marxiste, parce que chez Marx, il parlait de le lumpen prolétariat prêt à toute espèce d'aventure politique. Mais là, il y a l'idée qu'il faut minimum de sécurité économique pour chacun, pour que chacun soit attaché à la dépense du régime. Et Roosevelt illustre ce deal entre engagement dans la défense de la démocratie et la justice sociale par quelques exemples concrets, où il annonce déjà la mise sur pied d'un système de pension et d'allocation chômage, d'un système de santé et d'un système permettant d'accéder à l'emploi. Et ça se termine, ce passage, en disant « j'ai appelé pour des sacrifices personnels ». On revient au sacrifice. Mais maintenant, vous savez pourquoi vous allez éventuellement vous sacrifier. Bon. C'est parvenu à ce point que dans ce discours fameux, Roosevelt énumère la liste des quatre libertés qui doivent fonder ce renouvellement de la démocratie. Et je vous propose à ce stade de l'écouter, si ça marche. Mais,
We look forward to a world founded upon four essential human freedoms. The first is freedom of speech and expression everywhere in the world. The second is freedom of every person to worship God in his own way everywhere in the world. The third is freedom from want, which translated into world terms means economic understandings which will secure to every nation a healthy peacetime life for its inhabitants everywhere in the world. The fourth is freedom from fear, which translated into world terms means a worldwide reduction of armaments to such a point and in such a thorough fashion that no nation will be in a position to commit an act of physical aggression against any neighbor anywhere in the world. That is no vision of a distant millennium. It is a definite basis for a kind of world attainable in our own time and generation. That kind of world is the very antithesis of the so-called new order of tyranny which the dictators seek to create with the crash of a bomb.
Là, nous sommes en janvier 1941. Vous noterez donc l'appel en particulier. Alors, il y a les quatre libertés, freedom from speech, liberté religieuse, freedom from want et freedom from fear. Et vous noterez l'appel à des accords économiques internationaux qui devront assurer après-guerre aux populations de toutes les nations du monde une vie paisible à l'abri du besoin. Economic understandings. Donc, là, il y a ce lien entre la réalisation à l'échelle internationale des droits sociaux avec la conception d'un ordre commercial et financier. Economic understanding, c'est un ordre juridique du commerce international. Et cette idée sera reprise en 1944 par la déclaration de Philadelphie, puis en 1948 par la charte de la Havane, qui prévoyait la création d'une organisation internationale du commerce destinée à la mettre en œuvre, mais qui n'a jamais été créée, parce que les documents n'ont pas été ratifiés. Et ce lien sémantique que la notion de « freedom from want » établit entre la libération de la demande et la libération du besoin devait ainsi se prolonger à l'échelle internationale dans un lien institutionnel entre politique économique et politique sociale. Alors nous reviendrons l'an prochain sur l'échec de ce projet et la déconnexion qui en a résulté du droit social et du droit commercial international. Si j'ai tenu à vous faire écouter la voix de Roosevelt, c'est qu'on peine à se représenter aujourd'hui l'écho extraordinaire que ce discours a eu, ce Four Freedom Speech a eu aux États-Unis. Voici quelques images de monuments édifiés pour le célébrer et le commémorer, et on n'a encore rien imaginé de tel pour célébrer, par exemple, le choc de compétitivité ou le gagner plus pour travailler plus. Donc c'est des discours qui, à l'échelle historique, on sent évidemment un poids plus important. Donc si vous allez à New York, vous pourrez aller admirer ce monument où on a gravé, d'ailleurs, vous pourrez relire le discours que vous venez d'entendre. Donc il contenait déjà en germe la proclamation de nouveaux droits économiques, sociaux et culturels à vocation universelle. Et la nécessité d'une telle proclamation va être affirmée 4 ans plus tard par Roosevelt dans un second discours sur l'état de l'Union qui, lui, est radiodiffusé le 11 janvier 1944. Donc, deuxième discours fondateur cet horizon d'une justice sociale internationale. Ce discours est connu sous le nom de « Second Bill of Rights Speech ». Et il annonce la reconnaissance à venir après-guerre des droits de l'homme économiques, sociaux et culturels. Et Roosevelt commence cette annonce par un préambule qui tend à l'ancrer à la fois dans la tradition juridique américaine et dans les périls des temps présents marqués par l'expansion des dictatures. Nous en sommes arrivés à clairement réaliser le fait que la vraie liberté individuelle ne peut pas exister sans sécurité et indépendance économique. Les hommes dans le besoin ne sont pas des hommes libres. Ceux qui ont faim et sont au chômage sont la substance dont sont faites les dictatures. Deux observations ici. L'affirmation selon laquelle les hommes dans le besoin ne sont pas des hommes libres, vous voyez, c'est une citation dans la bouche de Roosevelt, est empruntée à la common law. Il faut le savoir. Ce sont des gens qui ont une culture juridique. Il se trouve dans un arrêt Vernon contre Bethel qui date de 1762. C'est une affaire de. Dans cette affaire, il s'agissait de savoir si un propriétaire qui avait dû consentir une hypothèque pour emprunter une somme d'argent pouvait valablement renoncer à recouvrer son bien en s'acquittant de sa dette. Vous voyez, vous avez votre maison, vous prenez un crédit hypothécaire sur la maison, votre prêteur a en tête qu'il aimerait bien garder la maison, donc est-ce que vous pouvez renoncer éventuellement, lui laisser le choix, soit d'être remboursé, soit de garder la maison. En common law, l'hypothèque emporte en effet un transfert du titre de propriété au créancier. Et donc le droit du débiteur de recouvrer son titre de propriétaire une fois payé sa dette est une règle d'equity. Je ne reprends pas, j'ai expliqué ce que c'était l'equity dans les cours précédents. Donc, c'est une des branches du système de common law. Et ce droit est connu sous le nom d'equity of redemption. Et l'arrêt Vernon avait décidé que l'emprunteur ne pouvait valablement renoncer à ce droit pour le motif suivant qui avait été rédigé par le juge Lord Henley. Alors là, je l'ai quand même traduit parce que c'est un peu technique, donc je me suis dit que je n'allais pas vous infliger. C'est très intéressant de relire ces textes. Moi, je ne m'en lasse pas. J'espère que j'essaie de vous faire partager mon goût. Cette cour en charge de la conscience du souverain. J'ai traduit comme ça « as a court of conscience ». Pourquoi ? Parce que c'est la cour de l'équité qui, au départ, c'était la fonction du chancelier. Et au départ, le chancelier, c'est le confesseur du roi d'Angleterre. Et il est là pour éviter que l'application de la common law ne conduise à des injustices. Donc, il est la conscience du souverain. Et la cour, elle se définissait comme « the keeper of the king's conscience ». Bon, donc là, c'est en tant qu'il y a une conscience du souverain et c'est elle que je vais mettre en œuvre. Et donc, cette cour surveille étroitement les personnes qui prennent des biens en garantie d'un prêt et s'approprient ensuite ces biens. Et je tiens pour établi la règle selon laquelle un créancier hypothécaire ne peut jamais stipuler au moment de l'octroi du prêt qu'un événement ou une condition quelconque puisse le priver du droit de recouvrer son bien et rendre irrévocable l'acte de cession. Il y a beaucoup de raisons et de justice dans cette règle, car les hommes dans le besoin ne sont pas à proprement parler des hommes libres, c'est ce que Roosevelt donc, va citer plusieurs siècles après, mais sont poussés par l'état de nécessité à souscrire à n'importe quelle condition que peuvent leur imposer des esprits retors. Vous noterez ici un trait de l'histoire du droit que nous avons maintes fois observé et qui rapproche le droit de l'art ou de la littérature. Le droit voit ressurgir du passé des formules enfouies dans la sédimentation des textes, mais en les dotant d'effets normatifs nouveaux dans des contextes complètement différents. Et une telle réactualisation suppose bien sûr d'avoir affaire à des dirigeants cultivés ou sachant s'entourer de gens cultivés. Je vous rappelle que De Gaulle disait que la véritable école du commandement est la culture générale. Alors Roosevelt, lui, avait étudié le droit, l'histoire et l'économie, et il avait ce type de culture à la fois historique et juridique, d'où cette référence à la figure du chancelier Henley. Quant au fond, l'assertion selon laquelle les hommes dans le besoin ne sont pas à proprement parler des hommes libres est, vous le savez, l'une des pierres angulaires du droit social, qui jamais ne prend pour argent comptant l'acquiescement des forts à la volonté des faibles. Il n'est donc pas surprenant que Roosevelt ait ainsi évoqué la common law pour poser ce socle juridique d'un second Bill of Rights consacré aux droits économiques et sociaux. Et réciproquement, on n'est pas surpris d'observer que l'une des principales critiques invoquées aujourd'hui pour justifier le démantèlement du droit du travail consiste justement à dire qu'il est liberticide, qu'il méconnaît le fait que de nombreux chômeurs seraient prêts à travailler la nuit, le dimanche, ou moyennant un salaire inférieur au minimum légal. Donc l'ultra-libéralisme fait dépendre l'ordre juridique de l'ajustement des calculs d'utilité individuelle, et c'est la raison pour laquelle, qu'il soit économique ou sociétal, il fait du consentement la condition nécessaire et suffisante de la légitimité d'une règle. Mais en fait, tout le droit social s'est construit contre cette idée, sur une méfiance du consentement donné par le faible au désir du fort. Et en second lieu, on retrouve dans cette annonce d'un second Bill of Rights la référence à l'expérience de la misère de masse qui a précipité des populations entières dans les bras des dictatures. Alors, je vais terminer par vous faire entendre, on terminera là-dessus, parce que j'avais prévu, je m'aperçois que j'avais de quoi parler 2 heures, évidemment, comme d'habitude, au dernier cours. La vérité de cette expérience est évidente en elle-même, va nous dire Roosevelt.
et cette expression dogmatique de vérité qui sont évidentes en elles-mêmes, est-elle aussi reprise de la tradition juridique américaine et très exactement de la déclaration d'indépendance des États-Unis de 1776. Vous vous souvenez peut-être, parce que c'est un document qu'on a rencontré, que cette déclaration commence par l'énoncé de vérité évidente en elle-même, qui était celle du premier Bill of Rights. Donc Roosevelt va reprendre cette expression, et je vous propose donc d'écouter cette annonce.
Certain economic proofs have become accepted as self-evident. A second Bill of Rights, under which a new basis of security and prosperity can be established for all, regardless of station or race or creed. Among these are the right to a useful and remunerative job in the industries or shops or farms or mines throughout the nation. The right to earn enough to provide adequate food and clothing and recreation. The right of every farmer to raise and sell his products at a return which will give him and his family a decent living. The right of every businessman, large and small, to trade in an atmosphere of freedom, freedom from unfair competition and domination by monopolies at home or abroad. The right of every family to a decent home, the right to adequate medical care, and the opportunity to achieve and enjoy good health. The right to adequate protection from the economic fears of old age, sickness, accident, and unemployment. The right to a good education. All of these rights spell security.
Bien, alors là, j'avais pas de traduction sous-titrée, donc je donne une courte traduction. Il commence par dire « De nos jours, ces vérités économiques sont acceptées comme évidentes en elles-mêmes. Nous avons adopté, pour ainsi dire, une seconde déclaration des droits sous laquelle une nouvelle base de sécurité et de prospérité peut être établie pour tous, sans distinction de conditions sociales, de race ou de croyances. » Et ensuite, il énumère une liste des droits, parmi lesquels il y a le droit au travail, le droit au salaire décent et un niveau de vie décent, le droit de commercer librement sans avoir à craindre la compétition déloyale et la domination des monopoles, soit à l'intérieur, soit à l'échelle internationale, le droit au logement, le droit à des soins médicaux et le droit à une protection adéquate en matière de maladie, d'accident et de chômage, et enfin le droit à une bonne éducation. Et il conclut, tous ces droits signifient la sécurité, et une fois que cette guerre sera gagnée, nous devons nous préparer à les réaliser et attendre ainsi vers de nouveaux buts pour le bonheur et le bien-être humain. Sans sécurité ici au pays, il ne peut y avoir de paix durable dans le monde. C'est comme ça que se termine ce discours, et cette dernière formule, que vous n'avez pas entendue, qui est inspirée de la Constitution de l'OIT, se retrouvera dans la déclaration de Philadelphie, adoptée 6 mois plus tard. Et donc, ce discours se termine ainsi par l'annonce d'une initiative que les États-Unis prendront une fois la guerre gagnée pour adopter cette seconde déclaration, ce Second Bill of Rights, car conclut Roosevelt, donc, sans sécurité, nous aurons à nouveau la guerre.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.